Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. En Inde, le 6 septembre, la Cour suprême a dépénalisé l'homosexualité, une décision historique qui invalide un texte dicté à l'époque coloniale. En Inde, la communauté homosexuelle, bi ou transsexuelle représente des dizaines de millions de personnes. Des citoyens qui vivent pour la plupart dans la crainte d'être rejetés ou agressés, moins de la moitié révèle son orientation à son entourage. La décision de la Cour suprême indienne ouvre de nouvelles perspectives. Les commerces LGBT pourront se développer. Les discriminations au travail pourront être combattues. Notre correspondant est allé à la rencontre des acteurs de cette économie arc-en-ciel, pionnier d'une nouvelle révolution. Inde, les homosexuels ne se cachent plus. Un grand reportage de Sébastien Farcy.
Il est minuit passé et dans le sous-sol d'un hôtel 5 étoiles de New Delhi, la foule est déchaînée. Une soixantaine de personnes acclament l'arrivée de la star du moment. Une femme aux habits multicolores, les cheveux courts, une moustache dessinée sur le visage. Elle entame alors une danse célèbre de Bollywood à la chorégraphie extrêmement virile. Cette artiste, c'est Drag King, une lesbienne aux seins effacés et à la démarche de macho. Tout autour de la scène, le public ici est composé d'hommes homosexuels et de transsexuels qui dansent frénétiquement et s'embrassent sur le rythme effréné de la chanson. La scène est rare, quasiment unique en Inde. Nous sommes ici au Kitisu, l'une des seules discothèques à organiser des soirées LGBT en Inde. Ravi, un jeune homme efféminé d'à peine 20 ans est ici avec ses trois amis homosexuels. Il porte un pantalon moulant, un fin chemisier montant et une ligne de maquillage sur les paupières.
Dehors, on ne peut pas se balader ainsi avec ces habits féminins. Soit les gens se moquent de nous, soit ils nous demandent de coucher avec eux. Ici, nous retrouvons des personnes qui nous ressemblent. Nous nous sentons libres d'être qui nous sommes, car chacun comprend ce que l'autre a dans son cœur.
Sur la scène, la chanteuse rappelle l'énorme victoire que vient d'obtenir la communauté LGBT indienne. Le 6 septembre dernier, la Cour suprême a invalidé l'article 377 du Code pénal indien qui punissait les relations homosexuelles de lourdes peines de prison. Pour Anshu, un des amis de Ravi, c'est le début de leur émancipation, le moment où la communauté sort enfin du placard.
Nous venons de faire un pas en avant, mais nous devons aller plus loin. Nous devons répliquer ce genre d'atmosphère dans les autres villes, à Bangalore, à Lucknow, Jaipur ou Bombay. C'est un début. Les cultures indiennes acceptent généralement les différences. Maintenant, cela doit s'appliquer à nous, pour que nous devenions des hommes ordinaires aux yeux des autres.
Le créateur de ce refuge arc-en-ciel, c'est Keshav Suri. Il est le directeur général de la chaîne indienne d'hôtels de luxe Lalit, où se trouve cette discothèque. Cet homme imposant ne ressemble pas vraiment au patron ordinaire. Il nous accueille en tunique noire de coton brodé et chaussé d'escarpins rose fuchsia. Keshav Suri est ouvertement homosexuel et depuis peu, il est marié avec un Français. C'est lui qui a introduit la culture des drag queens en Inde il y a 8 ans, en même temps qu'il a milité pour inclure toute la communauté LGBT dans son entreprise. Keshav Suri.
Drag artists are probably the most enlightened people in the world.
Les artistes drag sont certainement les plus éclairés du monde, car ils savent que le genre n'est qu'une construction sociale. Ils en voient donc balader ces règles, ils s'en moquent. Et c'est ainsi que nous devons vivre notre vie. Il n'y a pas de sexe faible ou fort, des hommes peuvent bien porter des talons, et les femmes, ce qu'elles veulent. Mais dans le milieu de l'entreprise, c'est plus difficile, car ces règles sont amplifiées 1000 fois. Il y a tellement de règles non dites. Vous devez porter une veste au conseil d'administration, vous devez avoir une poignée de main ferme, vous tenir droit. Et si vous faites tout ça, les gens vous prendront plus au sérieux et vous gagnerez plus d'argent. Et moi, j'ai dû affronter tous ces préjugés dans ma propre compagnie avant de réussir à ouvrir les esprits de tous les employés. Et j'ai eu la chance, car finalement, ça a été bien accepté.
Dans le hall en marbre de l'hôtel Lalit ou à l'accueil de la discothèque, une dizaine d'élégantes transsexuelles accueillent donc les clients de marque. Keshav Souris se présente comme un facilitateur, celui qui peut aider cette communauté LGBT à pénétrer la société et l'économie indienne. Et il est d'ailleurs l'une des 5 personnes de la société civile à avoir contesté cette loi 377 devant la Cour suprême et avoir ainsi obtenu ce jugement historique. Mais Keshav Souris a un avantage qui le protège. Il est le fils des propriétaires du groupe Lalit et il a donc pu prendre le risque d'exposer la culture homosexuelle au grand jour à une période où cela pouvait être périlleux pour les affaires. Car l'énorme majorité des entreprises indiennes, elles, n'ont pas pris ce risque. Au contraire, elles se sont servies de cet article de loi qui punissait les actes comme la sodomie pour empêcher la communauté LGBT de faire valoir ses droits. C'est ce qu'explique Ram Sinha. Il est le cofondateur de Pride Circle, une association d'aide aux LGBT dans le milieu professionnel.
Cette loi réprimait certains actes, mais il n'a jamais été considéré criminel d'être LGBT. L'identité n'était pas un crime. Mais beaucoup d'homophobes s'en sont servis et affirmaient que la loi ne leur permettait pas d'aider les LGBT à défendre leurs droits, car cela reviendrait à être complice d'un crime. Du coup, les personnes LGBT se sentaient rarement en confiance pour rapporter leurs problèmes de discrimination. Cela les obligerait à révéler leurs orientations sexuelles. Ces personnes préféraient donc changer d'équipe ou d'entreprise. Ainsi, quand la compagnie regarde aujourd'hui les chiffres de plaintes pour discrimination envers les LGBT, il voit qu'il y en a zéro.
Cette omerta se retrouve dans tous les secteurs en Inde et même dans un milieu généralement connu pour son ouverture d'esprit, le cinéma. Oui, car à Bollywood, beaucoup d'acteurs ou de réalisateurs seraient homosexuels ou lesbiens, mais personne n'en parle. L'un des rares à avoir osé révéler son homosexualité en a souffert depuis longtemps. Il s'appelle Onir et nous avons pu le joindre par téléphone.
Récemment, nous étions en voyage avec d'autres personnes du milieu. Et lors d'une soirée, tout le monde a commencé à se poser mutuellement des questions sur sa vie personnelle et familiale. Ils connaissaient mon orientation, mais personne ne m'a jamais demandé à quoi ressemblait ma vie. On m'a ignoré ainsi pendant tout le voyage. Mais je continue à me battre pour être entendu, car j'ai toujours refusé d'être invisible. Le pire est le comité de certification des films. En 2011, il a voulu couper les scènes qui faisaient référence à la lutte dans l'article 377. Et plus tard, pour un autre film sur la communauté, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas accepter que les gens regardent ce film, car j'y montrais les homosexuels comme des gens normaux. C'était humiliant. Mais maintenant que la loi a été annulée, je vais avoir les armes pour me battre contre ce genre de jugement.
Il y a en effet un avant et un après le 6 septembre 2018 en Inde. Avant ce jugement, cet article représentait une menace perpétuelle sur la vie quotidienne des homosexuels ou transsexuels indiens. Cette loi, adoptée par les colons britanniques en 1861, réprimait les actes sexuels dits contre nature, mais elle était en fait utilisée par la police pour harceler, faire du chantage, voire violer les homosexuels. Il aura fallu près de 30 ans de lutte pour la faire disparaître. Les premières plaintes ont été déposées dans les années 90 et cet article a été suspendu une première fois en 2009, puis rétabli en 2013. À présent, la Cour suprême a définitivement déclaré cet article inconstitutionnel car il viole le droit des homosexuels à une vie privée. Les magistrats se sont même excusés envers la communauté pour cette longue discrimination. Et cette décision historique a été applaudie par les plus grands noms du pays, tel Ashwani Kumar, ancien ministre de la Justice.
Ce jugement met en lumière les bases fondamentales de la Constitution indienne en termes de respect de la dignité, de l'humanité et de l'égalité. Chaque Indien devrait se réjouir en ce jour. Car en dehors du cas précis des homosexuels, si vous regardez le jugement, il affirme que les bases de la démocratie indienne et de sa Constitution, que sont la liberté et l'égalité, sont les plus importantes et qu'on ne peut les sacrifier sous aucun prétexte.
L'une des conséquences directes de cette dépénalisation est que les homosexuels, qu'ils soient aimés ou conspués, ne risqueront plus de se faire poursuivre s'ils veulent ouvrir un café, un magasin de vêtements ou un spa. Et c'est ce qui réjouit justement Jérôme Cousin, cuisinier français et entrepreneur homosexuel de 57 ans. Cet homme vit depuis 18 ans en Inde et a ouvert un vrai petit complexe homosexuel comprenant salon de massage, hôtel et restaurant, le tout lové dans une ruelle du sud de New Delhi. Le plus ironique est que cet établissement appelé Mykonos, au logo arc-en-ciel bien voyant, est situé juste à côté d'un temple hindou. Deux mondes très différents qui se côtoient donc. Jérôme Cousin, la coupe en brosse et les avant-bras couverts de tatouages, nous fait visiter son petit royaume de plusieurs étages ouvert depuis 2 ans et demi.
Donc ici on a la guest house, on a 4 chambres ici. Avec les murs colorés de la console.
Voilà, avec les murs colorés.
Donc on a 4 chambres ici. Mm-hmm. Ça c'est un étage que j'ai récupéré, qui était occupé par contrat avant et qui s'est libéré. Donc là, là on va avoir de nouveau des chambres et des cabines de massage. Mm-hmm. Et ici c'est l'entrée principale donc, du spa avec la réception. Mm-hmm. La réception, la... ici on a la changing room, on a des douches et on a une zone lounge où les gens peuvent grignoter, peuvent boire une boisson énergétique ou quelque chose comme ça. Ils peuvent se poser, regarder la télévision, enfin voilà.
D'accord.
Et puis bon, en dessous, on peut pas y aller maintenant, mais enfin en dessous, donc on a 2 étages encore. Un étage avec la steam room, le sauna sec, le jacuzzi, et puis un autre étage en dessous avec les cabines de massage. Donc on a 3 étages, on a en tout, on a 12 000 square feet. 12 000 square feet, ça fait à peu près 1500 mètres carrés.
Ah oui, ça fait beaucoup, hein. En fait, c'est en plus du massage, il y a tout ce qui est sauna.
Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas de massage. Les gens ici ont l'option, ont deux options. Ou ils prennent l'entrée du spa, c'est-à-dire qu'ils peuvent de façon illimitée, depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture, rester, faire un peu de gym, profiter du jacuzzi, faire de la steam, du sauna, prendre des douches, venir s'asseoir ici, manger, lire le journal. Enfin voilà, ils peuvent. Et puis bon, l'option massage, ça fait partie d'un package, c'est autre chose. Mais ce n'est pas obligatoire. On ne vient pas ici spécialement pour prendre un massage. On vient ici pour passer du bon temps.
Et pour être aussi entre nous.
Voilà, pour discuter, pour rencontrer des gens nouveaux. Pour, voilà. C'est un lieu de rencontre, en fait.
C'est un endroit convivial, c'est un endroit de rencontre, de discussion.
Voilà, il y a un petit peu de la musique douce. Enfin bon, le vendredi soir et le samedi soir, on fait des parties, les gens dansent en dessous autour du jacuzzi. On met de la musique un peu plus disco, un peu plus club, avec la machine à faire de la fumée, avec les disco lights, avec Bollywood, avec tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'ils aiment, quoi, en fait.
Qu'est-ce que vous avez vu comme changement depuis que la loi a été abrogée?
Ben, on a vu des nouveaux clients, des gens qui n'osaient pas venir avant, parce que bon, on a toujours dit à nos clients, bon ben c'est un endroit qui est safe, vous allez être tranquille, on va pas vous embêter, mais ça fait rien. Il y a des gens qui n'osent pas, qui n'osaient pas. Ils avaient un célibataire, ça va, mais un gars marié, s'il se fait arrêter par la police, s'il passe la nuit au poste, demain matin, il va falloir qu'il justifie à son épouse où est-ce qu'il était, et puis pourquoi qu'il était en prison. Donc il y avait toujours cette appréhension de dire, oh ben je vais me faire arrêter, et puis je vais être obligé de dire pourquoi, et puis voilà, donc c'était ça. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Enfin, je ne vais pas dire qu'il y a énormément de gays en Inde, mais beaucoup de gens sont bisexuels en Inde. De par l'éducation, c'est rare que les filles acceptent d'avoir du sexe avant le mariage, toutes ces choses-là, donc ça fait qu'il s'est développé tout un ensemble de gens qui sont devenus bisexuels par obligation, et puis maintenant, bon, bah, ça continue comme ça. Moi, dans mes clients, j'ai peut-être plus de bisexuels que de gays.
Et des gens qui sont mariés, quel profil ?
Voilà, des gens mariés, des gens qui ont des enfants, des gens qui ont une famille, et puis qui viennent au spa incognito, et puis voilà. Hein.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous pensez que ça va changer ? Alors légalement, vous dites que vous n'avez pas trop de problèmes jusqu'à
présent ? Non, je n'ai pas eu trop de problèmes, mais maintenant on va être quand même beaucoup plus libre. On pourra faire de la publicité, on va qu'on évitait un petit peu avant. Avant, on faisait de la publicité sur les sites gays, sur les sites internet réservés aux gays. Maintenant, bon, la publicité, on va pouvoir en faire partout.
Et le marché est énorme. Il n'y a pas de chiffre fiable pour mesurer la taille de la population LGBT en Inde, mais dans les pays occidentaux comme la France, environ 9% des habitants se déclarent homo, bisexuels ou d'une sexualité multiple. Appliqué à l'Inde, cela représente 117 millions de personnes. Et les marques ont donc rapidement sauté sur ces clients potentiels, comme l'explique Monish Malhotra, fondateur de l'agence de marketing Silver Monkey et militant de la cause LGBT. Dans son bureau, Monish fait défiler sur son téléphone les dizaines de marques qui ont décoré leur logo aux couleurs de l'arc-en-ciel le jour où l'homosexualité a été dépénalisée.
Dans la restauration, vous avez Zomato, KFC ou les vendeurs de ventilateurs Orient, les chips Pringles, la télé par satellite, Dish TV, la compagnie aérienne Indigo et le meilleur, le Whisky Royal Challenge, qui était vu jusqu'à présent comme super macho et pour les hétérosexuels forcés. Et il y en a bien d'autres. Ces marques ont des protocoles qui les empêchent de soutenir ouvertement des activités illégales et donc avant l'homosexualité. Maintenant, cette excuse a été jetée par la fenêtre et n'importe quel homme d'affaires malin doit sauter sur cette magnifique opportunité de charmer la communauté. Car les LGBT, eux, sont prêts à être traités ouvertement comme des individus à haut revenu. Les marques doivent donc faire ce choix. Veulent-elles être vues comme des entreprises progressistes qui avancent avec le temps ou comme des conservatrices qui résistent à ces changements ? Si elles soutiennent la communauté LGBT, leurs affaires vont certainement augmenter, car tout le monde aime qu'on les soutienne. Je pense donc que pour les marques, c'est le moment de prendre position.
Keshav Souri, le directeur du groupe hôtelier Lalite, a justement utilisé cet argument économique pour convaincre les juges de la Cour suprême de dépénaliser l'homosexualité.
De nombreux rapports ont montré que la communauté LGBT possédait un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne. Aux États-Unis, les commerces tenus par les LGBT contribuent à hauteur de 1000 milliards de dollars par an. Mon avocat, après avoir déposé ma requête de dépénalisation, a posé cette question toute simple. Pourquoi freinons-nous le tourisme de ce pays ? Car oui, de fait, nous le faisons. Il y a tellement de personnes LGBT aisées dans le monde qui viennent de pays comme la France, où les homosexuels peuvent se marier. Ils veulent visiter un pays aussi fascinant que l'Inde. Mais ils ne le font pas, car l'article 377 de la loi indienne pouvait être utilisé pour les harceler. Personne ne parlait de ça avant.
Certaines entreprises indiennes commencent aussi doucement à changer de l'intérieur pour mieux accueillir cette population depuis si longtemps invisible. Maintenant que la Cour suprême a reconnu l'égalité des homosexuels, certains services des ressources humaines essayent de leur reconnaître de nouveaux droits, comme l'explique Ram Sina, consultant et fondateur de Pride Circle.
Maintenant, les homosexuels révèlent davantage leur homosexualité qu'avant. Elles veulent que leur entreprise leur offre une place et prenne des mesures de discrimination positive. Certaines compagnies nous contactent pour que nous les aidions dans ce processus. La première chose qu'elles peuvent faire, c'est d'adopter une charte n'affirmant pas seulement une parité entre hommes et femmes, mais entre les différentes orientations et identités sexuelles. La politique vestimentaire doit aussi être modifiée pour indiquer qu'un employé doit être habillé de manière élégante et pas seulement mentionner qu'un homme doit porter une chemise et un pantalon, une femme, elle, une jupe. Il faut sortir du modèle binaire et être plus neutre. Enfin, les entreprises peuvent étendre les droits des LGBT dans leur politique d'assurance maladie, en assurant le partenaire homosexuel d'un employé. Certains l'ont d'ailleurs déjà mis en place dans le passé. Celles qui veulent aller plus loin peuvent aussi couvrir les opérations de changement de sexe pour leurs employés.
Une étude financée par la Banque mondiale en 2014 s'est penchée sur le coût économique de l'homophobie en Inde. Le chercheur y détaille les discriminations que les homosexuels, bisexuels ou transsexuels doivent subir dans leur vie, depuis l'école jusqu'à leur vie active. Beaucoup doivent arrêter leurs études à cause de moqueries, certains démissionnent de leur emploi à cause de harcèlement répété, et un nombre effarant tombe en dépression ou se suicide. Cette étude conclut ainsi que si les différents acteurs offraient une meilleure place aux LGBT dans l'économie indienne, le PIB du pays pourrait augmenter d'environ 1%. Tels sont donc les bénéfices économiques de l'égalité. You know, I was wondering, you know, if you could keep on because the four... Les homosexuels indiens ne se cachent plus. C'était un grand reportage en Inde de Sébastien Farsi, réalisation Pierre Chaffanjon.